In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Pour l'émission du jour, je vous emmène encore une fois à Saint-Florent-le-Vieil, encore une fois à la maison Julien Gracq. C'était jeudi dernier, il était 19h et c'était le rendez-vous Fenêtre sur Loire, une rencontre entre le public et un auteur en résidence que l'on m'avait demandé d'animer. L'auteur était là, il s'agit de Sébastien Berlandis. Malgré le temps hivernal, du public s'était déplacé. Alors suivez-moi jusqu'au bord d'une Loire plus qu'exubérante, dans la très grande bibliothèque installée dans le grenier à sel, et place maintenant à Sébastien Berlandis. Bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue pour cette rencontre Fenêtre sur Loire, et puis l'enregistrement de l'émission donc, que j'anime, l'émission Entre les pages sur Radio G à Angers. Et l'invité de ce soir, eh bien, c'est Sébastien Berlandis. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous et à toutes.
Au cours de cette conversation, nous allons essayer de mieux vous connaître en parcourant votre bibliographie et un peu plus. Votre premier livre, Une dernière fois la nuit, a été publié en 2013.
Oui.
Il y a donc 11 ans. Et depuis, vous avez publié 6 autres textes. L'autre pays en 2014, Mort en 2017, Revenir à Palerme en 2018, Des saisons adolescentes en 2020, 16 lacs et une mer, et une seule mer, pardon, en 2021. Et Lungomare en 2021. Et vous êtes professeur de philosophie.
Le dernier livre, il est sorti l'an dernier, en 2024. Et j'ai longtemps été prof de philosophie, mais mon métier d'enseignant est sur pause depuis un an et demi. Mais j'ai enseigné la philo en lycée public avec grande joie pendant très longtemps.
Alors votre dernier livre, donc Lungomare, publié en 2024. Lungomare, il parle de quoi ?
Bien, le titre est assez programmatique, hein, Lungomare, même si on ne parle pas italien, on peut deviner le sens de ce terme, du titre, le long de la mer, le front de mer. Hein, et de fait, le texte est une balade le long de la mer, le long de la côte Ligure en Italie. La côte Ligure, c'est cette côte qui forme un bel arc de cercle autour de la ville de Gênes, qui part de San Remo à la frontière italienne, franco-italienne, jusqu'à Porto Venere, avec la ville de Gênes au centre. Et voilà, au cours d'un été, un homme va parcourir cette côte. Enfin, il s'établit dans une petite station balnéaire où il retrouve la femme qu'il aime, et avec elle, il va, le temps de l'été, parcourir ou reparcourir cette côte. Et au cours de cette balade estivale, il va se souvenir de la jeunesse de ses propres parents, qui auraient vécu leurs 20 ans dans ces mêmes espaces. Donc il y a une double narration. Le texte est intégralement écrit au présent, mais il entremêle la narration d'un été amoureux et radieux et la narration ou la réinvention de la jeunesse de mes propres parents dans ces espaces italiens.
Dans ce que vous venez de dire, réinvention de ce qu'ont vécu mes propres parents, ça veut dire qu'on n'est pas dans une fiction.
On n'est ni dans une fiction, ni dans une pure autobiographie. Comme dans tous mes textes, je pars de mes propres souvenirs, de mes propres expériences, de mes propres voyages, des paysages que j'aime, des êtres que j'aime également et qui ont traversé ou qui traversent mon existence. Et à partir de cette base autobiographique, j'invente, je réinvente, je réécris, je dramatise, je fantasme. J'aime bien, c'est pas du tout pour faire mon prof de philo ni pour faire le malin, mais c'est juste que ça m'aide aussi à essayer de justifier ce que j'essaie de faire, pardon. Concernant ces questions d'autobiographie, récit, fiction, roman, récit, je n'aime pas tous ces classements, bon, ils sont efficaces, mais bon, bref. J'aime en tout cas bien la distinction que produit un penseur, psychanalyste et également directeur d'une belle collection qui est morte avec lui. Il est mort il y a peu de temps, à plus de 100 ans. Il s'appelle Pontalis, Jean-Benoît, Jean-Bertrand.
Moi, j'ai toujours dit J.B. Pontalis.
Ouais, J.B. Voilà. Pontalis.
C'est comme ça qu'on dit.
Et il distingue deux choses. Il distingue l'autobiographie, qui est, alors ce sont ces termes, hein, qui serait le fait d'écrire sur soi. On parlerait peut-être aujourd'hui d'autofiction. Et il distingue l'autobiographie de l'autographie. Alors, autographie, le terme est un peu complexe, mais j'aime bien la définition qu'il donne, et je me la suis appropriée. L'autographie, ce serait le fait d'écrire à partir de soi. Voilà. Et en fait, j'écris à partir de moi. À partir de mes souvenirs, de ma mémoire familiale, intime, des espaces que j'aime, des espaces que je traverse, que j'ai filmé, photographié, écrit dans des journaux. Et voilà. Mais j'aime bien le concept à partir. Enfin, je pars de moi à tous les sens du terme. C'est-à-dire, je m'éloigne de moi et dans cet espace, pardon, je fais le prof de philo, entre moi et moi-même, il y a la place pour l'invention. La fiction et la place pour le lecteur et la lectrice aussi.
Pour moi, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, il y a un jeu dans Lungomare, mais on le retrouve dans les autres livres.
Dans les sept, ouais.
Et ce jeu, en tant que lecteur, pour nous, le jeu, c'est le jeu de l'auteur. Et donc, très rapidement, tout ce qui va se produire dans le livre, c'est ce que vit l'auteur. Voilà, c'est moi, lecteur, qui l'ai appréhendé comme ça. Et repréciser ça, parce qu'à un moment donné, on se pose d'autres questions en vous lisant. On se dit, toute une vie ne peut pas être comme celle qui nous est racontée là.
Exact.
Donc, oui. La vie qui nous est racontée déborde de la vie réelle de la personne qui la raconte.
Oui, c'est juste. Ouais. Voilà. Exactement.
Donc, c'est pour ça que je
dis. Ouais. C'est moi sans être moi. C'est moi réinventé, c'est moi fantasmé, c'est moi dramatisé.
Paradoxalement, chez vous, l'écriture, elle n'a pas commencé par l'écriture, elle a commencé par le cinéma et la photo.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'on passe soudainement de l'image au mot ?
Ça s'est fait par hasard. Vous savez que je n'ai pas toujours écrit. C'est une question qu'on me pose souvent, notamment quand je rencontre des jeunes gens en lycée. Et souvent, les élèves pensent que j'ai toujours écrit. Quoi. Que quand j'étais ado, j'écrivais déjà des poèmes. Et pas du tout, je n'écrivais pas, j'étais dans le sport de haut niveau, figurez-vous, quand j'étais adolescent. J'aimais quand même l'art, enfin, j'aimais le cinéma en particulier, le cinéma c'est ma première passion. J'ai étudié la philosophie et le cinéma en parallèle, mais je n'écrivais pas du tout, vraiment. Je me souviens tout de même que je traduisais, j'aimais beaucoup la pop anglaise, la musique anglaise, et j'aimais traduire des chansons anglaises un peu sombres. Voilà, que j'offrais aux filles que j'aimais. Des groupes qui sont bien plus vieux que moi, j'aimais bien The Smiths, enfin The Cure, enfin voilà, des choses un peu sombres et mélancoliques que tout adolescent écoutait, quoi, enfin bref. Et voilà, c'était ça ma seule activité d'écriture, c'était quand même quelque chose. Et puis voilà, le cinéma m'a pris, en même temps que la lecture tout de même, enfin j'étais un grand lecteur quand j'étais ado, mais c'était vraiment le cinéma, quoi. J'ai découvert un certain cinéma, on va dire, d'art et essai, quand j'étais en première, je me souviens très bien, enregistrer des films improbables que je ne comprenais pas, mais qui me fascinaient. Et assez vite, je me suis rêvé cinéaste. Je me souviens avoir dit à un ami à 20 ans, je l'attendais dans une bibliothèque, et voilà, je lui dis « Pascal, je rêve d'être cinéaste ». Bon, j'ai mis plus de 20 ans à faire des films, des courts films, mais ma foi, j'en fais quand même. Et comme je n'avais pas... Le courage ou l'audace, j'avais assez peu confiance en moi et que le cinéma me paraissait trop grand pour moi. Je me suis mis à faire des photos. Mon père m'a offert un appareil photo à 20 ans. En revanche, assez vite, j'ai eu le désir de penser la photographie en termes de séries. Donc, je construisais des séries romanesques ou cinématographiques. Et vraiment, mes premières photographies en noir et blanc sont cadrées comme des plans de cinéma. Enfin... Et puis, cette activité de photographe m'a occupé presque professionnellement. Enfin, j'ai beaucoup exposé mon travail entre, je dirais, je sais pas, 2006, je crois, ma première expo, jusqu'en 2012 en France, à Arles, au Festival d'Arles, pour citer le plus connu, puis un peu en Italie, dans ma ville, à Lyon, à Grenoble, enfin bref, un peu partout. Et j'arrive à l'écriture, mais j'aime bien raconter le début de l'écriture. Je trouve l'histoire jolie. Et on est en 2010, c'est le début de l'été. Je dois exposer un travail photographique pour une biennale de la photo qui a lieu dans ma ville. Elle n'existe plus, ça s'appelait Septembre de la photographie. Et cette année-là, Bernard Plossu, c'est un photographe qui est important dans mon imaginaire, exposé pendant ce festival. Donc j'étais assez fier de faire partie de cette aventure. Mais en revanche, je n'avais pas d'image, je n'avais pas de série photographique. Et au début de cet été-là, en 2010, je suis chez mes parents dans le sud de la France. Je suis originaire de Provence, entre Avignon et Marseille. Et je ne sais pas pourquoi je fouille dans le bureau de mon père, ce n'est pas mon habitude. Et je découvre un trésor, enfin pour moi c'est un trésor. Je découvre dans un carton des lettres et des cartes écrites en italien. J'ai des origines italiennes, ça je le sais, des deux côtés. Et je connais surtout le côté de mon père. Donc je découvre des lettres et des cartes écrites en italien qui datent des années 30. Et je connais bien l'histoire de la famille de mon père parce que je suis très très proche de mon grand-père qui est encore en vie à cette époque. Et il m'a beaucoup raconté l'histoire des miens, italiens. Et voilà, et je lis un peu l'italien, je le comprends un peu, et surtout, les lettres et cartes sont adressées, et toutes ces adresses me renvoient en Lombardie, c'est la terre d'origine de ma famille paternelle. Mes ancêtres étaient bûcherons et charbonniers, ils vivaient dans un petit village au-dessus de San Pellegrino Terme, à 20 km de Bergame. Voilà, ils vivent dans la montagne, et ils sont bûcherons et charbonniers. Et ben voilà, j'ai le désir de... très vite de refaire ce voyage, de partir avec mes appareils, avec mon amoureuse de l'époque, qui était aussi dans l'image, dans le cinéma et la photographie. Et nous voilà tous deux partis pendant 3 semaines, 1 mois, en voiture, sur les traces des miens. Quoi. Je vais faire des images, la série va se construire, elle sera exposée, et surtout, cet été-là, je tiens un journal de voyage. Je n'avais jamais écrit, et là je vais écrire 142 pages. Tout de même, c'était grand. Et j'ai beaucoup de plaisir à écrire tous les soirs au café, à l'hôtel, enfin n'importe où. On prenait un petit temps et puis on écrivait la journée de manière très très factuelle. Voilà. Les routes, le nom des routes, les chambres, le numéro des chambres, les plages, les bois, les rivières. L'été se termine, je reprends les cours et je rouvre le journal, mais je voulais me souvenir de cet été. Voilà, je voulais relire mon journal. Et c'est là que m'est apparue la possibilité de transformer ce journal en roman possible. Voilà comment l'écriture commence. Et je mettrai 8-10 mois pour écrire ce premier texte que j'enverrai par la poste à une vingtaine, 24 maisons, je crois. Et j'ai 24 refus et je crois 20 ou 19 lettres types. Et tout de même 5, et ça c'est ma petite fierté quand même. Et c'est comme ça, c'est pas pour faire le malin, c'est juste que c'est comme ça, j'ai eu cette chance-là. Moi, je peux les citer, il y avait Gallimard, Vertical, Stock, Arléa, et puis une maison d'édition canadienne, je crois que ça n'existe plus, les Allusifs, c'était hyper beau. Et je corresponds surtout avec Yves Pagès de Vertical, Philippe Demanet qui a pris sa retraite, qui était le secrétaire général des éditions Gallimard, et puis Brigitte Giraud qui est écrivaine et qui dirigeait une très belle collection chez Stock, qui sera ma première collection, qui s'appelle La Forêt. Des trois, c'est elle qui est la plus enthousiaste. Donc Brigitte Giraud, elle hésite, elle est lyonnaise, et je ne le savais pas, on se rencontre beaucoup. Plusieurs fois, elle me fait réécrire le texte et j'ai vraiment confiance en elle parce que j'aime l'écrivaine et j'aime ce qu'elle me dit. Je pense qu'elle a raison. Sauf que je n'y arrive pas, quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et je lui dis, pardon madame, mais j'arrête. Et je mets le livre dans un carton. Mais voilà. Et très vite, j'ai eu une nouvelle idée pour un nouveau texte, à nouveau italien. Et je vais l'écrire plus rapidement. Il s'appellera Une dernière fois la nuit. C'est Brigitte Giraud qui trouvera le titre. Et celui-ci, elle le prendra tout de suite. Elle exigera que je lui donne en priorité. Je dirai à nouveau oui, madame, maintenant on se tutoie. Et elle mettra 2 jours pour le lire et pour l'accepter. Sans aucune. Comment dire, réécriture, quoi. Et comme je suis coriace et tenace, enfin, le premier texte, je le reprendrai 2-3 ans après. Il deviendra L'autre pays. Donc deuxième texte publié, premier texte écrit, mais c'est vraiment mon deuxième texte publié, parce que là, enfin, j'ai vraiment trouvé ma langue, quoi.
Plusieurs choses caractérisent votre écriture. Et tout d'abord, tous vos textes, sauf à me tromper, mais je crois être sûr de moi, travaillent la question de la réminiscence, du souvenir, oui, de la mémoire. Vous avez peur de perdre la mémoire ?
Oui, peut-être. Oui, la mémoire, c'est, c'est le motif central.
Dans Mort, vous avez dit, je n'ai pas peur de désenchanter mes souvenirs.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que je n'ai pas peur de revenir dans les espaces que j'aime. Et c'est drôle, que vous... parce que je pense, j'y pense pas parce que je suis une machine à citation, c'est juste que la phrase est dans le livre, dans un de mes livres. Et puis j'aime bien César Pavese qui dit, et je suis en désaccord avec lui, rien n'est plus inhabitable qu'une terre où on a été heureux. Et moi, je pense l'inverse. Voilà, j'ai plaisir à revenir dans les espaces que j'aime. Et je n'ai pas peur de désenchanter mes souvenirs, et notamment lorsque je reviens dans cette pinède varoise au bord de la mer où j'ai passé tous mes étés d'enfant et d'adolescent. Et je raconte ça dans Mort, qui est mon texte peut-être le plus autobiographique. Et c'est là que je crois que j'écris, voilà, j'écris cela. Donc je n'ai pas peur de désenchanter mes souvenirs. En revanche, oui, j'ai peur. Et ça, j'emprunte ça, cette idée ou cette phrase à un cinéaste que j'adore et que j'ai eu la chance de rencontrer. Il s'appelle Alain Cavalier. Alors, il est très vieux, il est encore en vie. Il est né en 32, donc il n'est pas tout jeune. Et je me souviens, en 2009, il était venu présenter à Lyon un film qui s'appelle Irène. Irène, c'est le nom de la femme qu'il aimait dans les années 70, qui est morte jeune, tragiquement, dans un accident de voiture. Et le film raconte ça, quoi. Et donc, Cavalier, je l'interroge... Il a cette phrase vraiment simple et honnête et belle et sincère. Et là aussi, je me la suis appropriée. Il dit, voilà, à un moment donné, l'âge venant, je n'ai plus supporté que les choses et les êtres, je crois, c'est ça, les choses et les êtres qui m'importent disparaissent sans laisser de traces. Alors, je les filme quotidiennement, voilà. Ben, c'est pour ça que j'écris. Je ne supporte pas que... les espaces et les êtres, je dis pas les choses, mais les espaces et les êtres qui m'ont marqué disparaissent sans laisser de traces. Alors je les photographie, je les filme et je les réinvente par l'écriture.
Ce qui est le cas.
Donc la mémoire traverse effectivement tous mes textes. C'est toujours l'histoire d'un homme qui revient dans des espaces aimés et il se souvient de moments passés, souvent avec une femme aimée ou perdue ou les deux. Enfin voilà.
Ou chercher.
Ou rechercher, ouais.
Et c'est très particulièrement le cas pour Mort, parce que Mort, c'est un livre qui va accompagner la fin de vie de votre grand-père. Donc c'est, là, c'est vraiment pour, vous le dites d'ailleurs dans Mort, il faut qu'il reste, enfin, il ne faut pas qu'il disparaisse en réalité.
Oui, c'est juste, oui. D'ailleurs, au départ, j'ai commencé ce texte, c'est mon texte préféré, enfin, c'est peut-être pas, c'est pas le mieux écrit, j'écris mieux maintenant qu'il y a 15 ans, heureusement. Mais vraiment, c'est un texte que j'ai adoré écrire, alors que c'était une période vraiment tragique. Mon grand-père était l'être que j'aimais le plus au monde. J'apprenais qu'il lui restait quelques mois à vivre. J'apprenais ça à l'automne 2013. Il est mort fin mars 2014. Et en fait, j'allais le voir souvent. Il habite Avignon. Je descendais de Lyon, j'allais le voir. Et on avait plaisir à reparler de nos étés varois. Il y avait ma grand-mère aussi qui est morte en 2020. Elle est importante aussi dans le livre, mais c'est vrai que j'avais un rapport vraiment très fusionnel avec mon grand-père. Et j'aimais voilà, lui raconter nos étés. Et c'est pas étrange. Quand il en parlait, il avait une bonne mémoire. Il perdait la vue, mais pas la mémoire. Il avait moins mal, quoi. Voilà. Il ne souffrait plus, ou moins. En tout cas, il oubliait la douleur. Et en fait, à l'issue de nos rencontres, je me suis mis à écrire, quoi, à essayer de me rappeler de mes étés d'enfant et d'adolescent, et puis de retranscrire les échanges que nous avions toutes les semaines. Et après, je lui lisais. Voilà. Et vraiment, j'ai d'abord écrit ce texte, pas dans l'optique de le publier. Après, très vite, l'espoir qu'il soit publié est arrivé. Mais au début, c'était vraiment pour lui, pour qu'il aille mieux, quoi, bêtement. Enfin voilà. J'écrivais, je l'appelais, je lui lisais, il précisait des choses, il y a plein de formules qui sont de lui, très très provençal. Voilà, et bon, il n'a pas lu beaucoup, hein. Le livre est court, il fait 90 pages, je crois que j'ai pu lui lire 33 pages, quoi, quelque chose comme ça.
Faisons une pause musicale.
Le ciel pianote sur les ardoises, petite pagaille de phrases de pluie. Le quai nu joue-t-il le jazz de ce que j'ai, de ce que j'ai plus. Comme un poème sans une phrase dans la paume de la pluie. Je suis la framboise ingénue, un cri rose dans le gris. petite pagaille de phrases de pluie. Ce mardi, pas de bleu, du gris, un peu de nuit, dans le jour clair. Je suis grise comme la pluie, je reconnais ce petit air. Et le petit air me reconnaît, dedans je suis, j'étais, je serai. La petite fille que j'étais, la petite vieille que je serai. Petite pagaille de phrases de pluie. Le Kaini joue-t-il le jazz? De ce que j'ai, de ce que j'ai plus, je suis la framboise ingénue, un cri rose dans le gris. Ce mardi, pas de bleu, mais je danse et la pluie. Les yeux dans les yeux, comme on se danse et la pluie. Que veux-tu que je fasse? Une inarticulable averse passe. Une inarticulable averse passe. Rouler grisaille, pétard mouilleux. Ciel écorché. Ce mardi, pas de bleu.
C'était Gris Cornac qui a interprété Pluie, un tout nouveau titre qui annonce leur prochain album. Vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, et vous écoutez Entre les pages. Retournons à Saint-Florent-le-Vieil et reprenons la conversation avec Sébastien Berlandis, là où elle s'est interrompue.
Une des autres caractéristiques de votre écriture, c'est le fragment. C'est par fragment qu'il apparaît. Alors on se fait une image du personnage en les additionnant. On n'a pas l'image complète, on ne l'aura jamais, mais ce qui vous caractérise, c'est justement cette question du fragment, et avec ces petits bouts de fragments, moi ça m'a fait penser, aux images de cinéma, hein, 24 images secondes, et j'ai l'impression que vous écrivez un peu comme ça, c'est-à-dire par petits bouts qui s'additionnent et qui fabriquent des images. Ça c'est délibéré.
Oui, ça c'est délibéré.
Ouais.
Mais très vite, enfin, au début, quand je me suis mis à écrire, je me suis pas dit, je vais écrire, je vais adopter une écriture photographique. Ça, ce sont les nombreuses critiques que j'ai pu lire autour de mes livres, et j'aime quand un journaliste, enfin une personne, écrit que voilà, mon écriture est photographique ou cinématographique. Ça dépend des livres. Alors Mort, pour moi, c'est la photo, parce que les fragments sont courts, et chaque fragment est comme un flash photographique. Et là, en revanche, ce qui est délibéré, c'est l'ordonnancement des fragments. Vraiment, là j'ai pensé la construction du livre comme si j'imaginais une exposition photographique. Et puis aussi, cette forme s'imposer, puisque c'est un texte, là, pour le coup, vraiment ouvertement autour de la mémoire, et bien, tout le monde sait que nous ne nous souvenons pas dans l'ordre. J'ai voulu respecter ça, ce désordre. Alors, il y a un ordre tout de même, mais bon, on se souvient dans le désordre, de manière un peu incohérente, quoi. Et je voulais que le livre respecte cela. Et il y a d'autres textes où c'est plus le cinéma dans Lungomare, et c'est vraiment, j'ai vraiment construit le texte comme... Alors, j'emprunte cette expression à une journaliste qui s'appelle Sylvie Tanet, et c'est elle qui a dit que voilà, mon livre lui faisait penser à un long et doux travelling cinématographique le long des côtes italiennes. Voilà. Et ça, je l'ai vraiment remercié parce que je l'ai écrit comme cela. Voilà. Mmh. J'ai voulu construire ce texte comme un lent et doux. C'est pas toujours lent et doux. Tout dépend des espaces qui sont traversés. Les espaces impriment la cadence de la langue. Quand je suis à Gênes, Gênes c'est une ville sulfureuse. En plus, le fragment est nocturne et un peu sensuel. Donc là, l'écriture va plus vite. Mais sinon, on va un peu lentement et un peu dans le désordre, parce que j'aime un certain cinéma et je n'aime pas le cinéma qui raconte une histoire de manière parfaitement scénarisée, psychologisée, dialoguée. Le cinéma que j'aime est plutôt déconstruit et aucun de mes textes n'est linéaire.
Je parle de fragments, je parle de ces fragments qui fabriquent des images. Juste un extrait de Lungomare. Octobre 71, comme il est écrit au dos, mes parents ont 20 ans, mon père bras nus, chemise blanche ouverte, pantalon gris, taille haute, cheveux noirs et mi-longs, le bras droit posé sur la nuque de ma mère, gilet rose, pantalon bleu nuit, la silhouette toujours plus frêle, le bras gauche étreint sans fermeté la taille de mon père. On est face à des petites... là, vous nous décrivez une photo,
oui.
Mais votre écriture, elle fait exactement... Enfin, pour moi, elle fait exactement ça. C'est-à-dire que vous... Oui, j'ai dû lire quelque part qu'on parlait de vous en termes d'impressionnisme, dire que c'est des tâches qui s'ajoutent et qui fabriquent tout d'un coup une image. Et ça, c'est ce qui caractérise à mes yeux votre écriture.
Alors, si je puis me permettre,
oui.
C'est vrai que j'ai souvent entendu que mon écriture était impressionniste parce que je procède par touches et que c'est très suggestif, surtout au début, plus maintenant. Je ne maîtrise pas l'histoire des arts parfaitement, mais tout de même, je vois à quoi ressemble l'impressionnisme, oui, oui. Et c'est beaucoup plus précis quand même. Voilà. Enfin, mes textes sont beaucoup plus précis et moins flous, d'autant plus maintenant que des peintures impressionnistes.
Parce que... Quand on parle, enfin, si j'utilise ou si j'y fais référence, simplement pour le geste de la touche.
Oui, par
et
contre,
pas forcément lassant.
Et c'est suggestif, voilà. J'ai pas une prose démonstrative.
Tous vos livres, il y a toujours un appareil de notes à la fin. Vous apportez, vous précisez, telle citation vient de tel livre, telle image vient de tel film. Je pense dans 16 lacs, justement, il y a une référence au film de Wenders, Les ailes du désir. C'est important de contextualiser comme ça l'écrit que vous avez produit.
Oui, oui. J'aime assez peu les... J'aime même pas du tout. Enfin, à part quand c'est, je sais pas, Sebald ou Yannick Enel qui le font, les proses référencées. Donc, dans mes textes, il est question en creux, voilà, de films, de textes, mais je ne les nomme pas. En revanche, oui, à la fin, il y a des notes, et puis voilà, les musiques qui sont convoquées sont précisées. C'est pour le lecteur, ça, pour le lecteur et la lectrice, il a envie de creuser. Puis j'aime bien les bonus DVD, en fait, voilà. Donc c'est, en fait, je fais des bonus DVD. Je le fais de plus en plus, parce que dans mes quatre premiers textes, alors peut-être que je référençais moins, il y avait moins de citations dans les quatre premiers textes, je sais plus. Si, Pavès, bon bref, oui. Peu importe, oui. Mm-hmm. Bah, oui, c'est vraiment pour les lecteurs et les lectrices.
Le sentiment que moi j'ai eu en vous lisant, c'est que il n'y a pas de violence dans votre écriture, pas d'aspérité, c'est très doux.
Oui.
Il y a le confort de la nostalgie. D'ailleurs, est-ce que c'est bien de la nostalgie ?
Non.
Non ?
Non.
Ce serait quoi ?
Plutôt de la mélancolie.
Plutôt de la mélancolie.
Alors là, mon prof de philo pénible.
Oui,
allez-y. J'aime beaucoup les distinctions conceptuelles et les élèves aussi. Contrainte et obligation, c'est pas la même chose. Nostalgie et mélancolie, c'est pas pareil.
Moi, j'ai vu de la nostalgie. Ce que moi, alors, j'ai lu, c'est de la nostalgie. Maintenant, que vous, pour vous, ce soit de la mélancolie,
c'est... Je suis spécifique et sévère, alors que je ne suis pas du tout. Par contre, j'aime bien que vous notiez la douceur.
Oui.
Oui, mes textes sont doux. Ouais. Ouais. J'ai envie que ça me ressemble, en fait, tout simplement. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je suis calme, je suis doux, je suis mélancolique. Donc mes textes, mes images, mes films me ressemblent et ça, c'est très bien. Et oui, alors pourquoi moi je vois plutôt de la mélancolie, parce que banalement la nostalgie c'est le regret du passé en tout cas peut-être que moi je ne regrette pas mon enfance ni mon adolescence, même si je reviens souvent sur elle. En revanche, je suis très très mélancolique et depuis toujours. À 16 ans j'étais mélancolique, quoi. Et j'aime bien la définition que donne Freud de la mélancolie. Il dit, voilà, la mélancolie, c'est le sentiment que nous avons lorsque, ouvrez les guillemets, l'ombre de la disparition tombe sur nous. Et mes textes tournent autour, écrivent, un des motifs principaux, vous l'avez dit, c'est la mémoire, l'autre, c'est la disparition. Voilà, la fin de l'été, la fin de la jeunesse, la fin de l'amour, la disparition de paysages aimés. Voilà, j'écris autour de la disparition. C'est en cela que mes textes sont profondément mélancoliques. Voilà, j'ai conscience que le temps file, passe vite, et alors il faut le retenir, il faut l'écrire, il faut le photographier. La photographie, c'est l'art le plus mélancolique qui soit. Et je n'écris également qu'autour de l'été. Ça, c'est vraiment le motif majeur, la mémoire et l'été. Sept livres estivaux. Il y en a dans les cartons, il se passe tout le temps l'été. Et je trouve que l'été, justement, est la saison la plus mélancolique. Parce que le temps file vite. Il file aussi peu vite ou aussi lentement ou aussi rapidement que pendant les autres saisons. Mais en fait, non. Voilà. Il file plus vite. Et j'essaie de capter ça, quoi. Enfin, l'intensité fugace de l'été, la disparition des choses. Il n'y a pas de regret, quoi. Enfin, je ne regrette pas le temps où le camping était privé de tous ces bungalows affreux. Je constate, voilà, que le camp a changé. En revanche, que mon grand-père disparaisse, que je vieillisse, c'est pas toujours agréable.
Dans cette mélancolie, moi j'avais écrit dans ma question, c'est écrit dans cette nostalgie, mais je vais m'approprier le terme dans cette mélancolie.
Plein de gens voient mais parce mes qu'on textes est... comme des textes un peu nostalgiques.
Parce qu'on n'est pas au même grave, plan, parce qu'on n'est pas au même, comment dire, on n'est pas à la même place. Mm. En fait, en tout cas, moi, lecteur, si moi je vois ça, c'est que votre écriture suscite chez moi de la ressouvenance, du ressouvenir. Mmh. Et à ce stade-là, pour moi, c'est plutôt de la nostalgie.
Oui, là, je suis d'accord. Voilà. Ça produit de la nostalgie.
Dans cette mélancolie, il y a toujours des femmes. Elles sont là, espérées. Elles sont souvent venant de la périphérie. C'est le sujet de Sazlac et une mère, cette femme inconnue sur un film retrouvé. Dans Lungomar, vous êtes sur une plage, il y a une femme, une maman, on imagine, avec un enfant. Mais elle est, quand je dis qu'elle est la périphérie, c'est comme quand on est assis, qu'on regarde, et puis il y a bien ce personnage qui est là, qu'on fixe pas forcément, mais qu'on voit. Vous le regardez, vous en parlez. La place des femmes, c'est quoi chez vous dans l'écriture ?
Elle est centrale, puisque, oui, comme vous, oui, elle est centrale, ouais. Je sais pas quoi répondre à cette question. Je vais être banal, quoi. Enfin, je suis très amoureux des femmes, quoi. Enfin, et en particulier des femmes qui sont dans mon existence, mes amis ou mon amoureuse. Voilà, je suis entouré de femmes. Voilà. Pas exclusivement, mais presque. C'est banal comme réponse, hein, mais bon. Elle est sincère.
Oui, mais dans comme c'est une constante, comme elles sont présentes tout le temps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, votre écriture, c'est une écriture sans violence, très douce. Donc ces femmes sont là aussi de manière très douce, très... On sent qu'elles comptent pour vous, que ce sont des personnes qui comptent pour vous, et on le lit dans vos textes. Dans tous ces livres, il y en a un qui est particulier. C'est celui qui est intitulé « Des saisons adolescentes ». Parce que vous n'en êtes pas entièrement l'auteur.
Oui.
Il procède d'une démarche particulière.
Oui.
Vous pouvez nous en parler ?
Ah oui, alors j'espère que je ne vais pas être aussi long que lorsque j'ai raconté le début de l'écriture, parce que j'adore parler de ce texte. Et c'est un texte qui est cher à mon cœur, parce que je l'ai écrit avec mes élèves. Et au départ, ce n'était pas du tout un projet éditorial. Quand j'étais prof, j'aimais bien prendre 2 heures par trimestre, on va dire, de temps en temps, pour faire écrire mes élèves autour de questions qu'ils aiment. Alors le désir amoureux en particulier, la question du temps. Ils ont un rapport au temps particulier aussi, les jeunes gens. En 2012-2013, je propose un exercice d'écriture poétique et ludique le jour d'un festival, le jour du carnaval. Je suis dans un lycée où il y a un carnaval très conséquent. Et je sais que les élèves vont arriver déguisés, mais supérieurement déguisés, avec des déguisements fous. Ils ne passent pas la porte de la salle de classe. Donc je sais que je ne vais pas pouvoir faire cours. Et on est en mai, il fait beau, et on est dans un cours sur le temps. C'est la notion, vous pouvez l'imaginer, que j'aime particulièrement travailler. Et je suis dans un texte de Barthes. Je vénère Roland Barthes. Le fragment, c'est Barthes aussi.
Oui.
L'éloge du fragment, enfin voilà, il en a parlé, et donc je ne vais pas en parler. Et voilà, je suis dans la chambre claire, on se demande, c'est un texte de Barthes, on se demande comment arrêter le temps, et Barthes pense que voilà, la photographie est une manière un peu illusoire d'arrêter le temps. Voilà. C'est le seul art qui peut fixer l'absolument présent. Et je suis là-dedans, avec eux, avec mes élèves, et puis parallèlement, je lis un texte argentin qui raconte l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon qui a 15 ans et qui perd la mémoire, et à un moment donné du livre, il va pouvoir se souvenir d'un seul souvenir, mais il a le droit de choisir lequel. Et je raconte ça, la veille de l'exercice d'écriture, je préviens mes élèves, je leur dis « Bon, ok, demain on te fera par cours, on écrira, donc amenez des beaux papiers, pour que ce soit un peu solennel, quoi. » Et voilà, ils arrivent, effectivement, certains prennent les consignes d'écriture dans le couloir, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer. Donc c'est assez drôle, ce moment. Et je leur raconte l'histoire du garçon qui perd la mémoire, et je leur demande de se mettre à la place de cet adolescent et d'écrire le souvenir qu'il souhaiterait garder, s'il n'y en avait qu'un. Ils prennent 2 heures, voire plus, enfin toute la journée, toute l'après-midi, pour écrire. Ils me remettent leur texte en fin de journée, certains le lendemain, et le lendemain, je les ai. Et on lit les textes ensemble, en cours. Voilà, certains sont déjà beaux et émouvants, d'autres complètement ratés. C'est un super moment. Ils m'offrent leur texte à la fin de l'heure. C'est la fin de l'année. Ils disparaissent, ils partent, et puis les années filent. On arrive en 2017. Je crois que c'est à ce moment-là que le texte va naître, des saisons adolescentes. Et j'ai envie d'écrire sur ma pratique de professeur en banlieue. Je travaille en banlieue. J'ai envie de faire un texte, pas sociologique, mais en tout cas presque, quoi. Voilà, c'est quoi enseigner dans un lycée de banlieue en 2017, un vendredi à 15h. Et puis je n'y arrive pas. Et je repense au texte de mes anciens élèves. Je me dis, mais bon, je repense à la question que je leur avais posée. Et on est en début d'année cette fois. Et j'ai des bonnes classes, enfin voilà, j'ai des classes scientifiques, une classe littéraire, et tous et toutes sont plutôt littéraires, quoi. Et je propose ça à 2 ou 3 classes, je ne sais plus, un exercice, voilà, le même. S'il n'y avait qu'un seul souvenir à garder, quel serait-il ? Et il y a une élève, une fille, qui s'approche du bureau à la fin de l'heure, et elle me dit « Mais monsieur, votre idée, elle est super, on l'aime trop, mais en revanche, on aimerait que vous participiez. » Et ben, je suis touché, déjà, qu'ils aiment et qu'ils aiment la proposition. Et puis, le soir, voilà, je suis surexcité, en fait. Je trouve l'idée super, aussi, et je me mets à penser, à repenser, à écrire, et déjà à inventer mes propres souvenirs d'adolescent. Et le lendemain ou le surlendemain, ils arrivent avec leur texte, et puis moi aussi... Et c'est là que je me dis, mais pourquoi pas envisager un travail vraiment sérieux sur une longue période, quoi, sur plusieurs mois, alors en dehors des heures de cours, il y a quand même un programme lourd en philo, et je leur propose ça, voilà. Je leur dis, voilà, peut-être qu'on va travailler ensemble, de manière un peu sérieuse, sous la forme d'ateliers d'écriture, Et c'est là que je commence à imposer des contraintes, quoi, écrire au présent, à la première personne, j'interdis des choses. Et voilà les élèves qui se mettent à écrire. Et je les suis chaque semaine, toutes les deux semaines, enfin, en dehors de mes heures de cours en permanence. Et au final, le texte prend forme. Je pressens qu'il peut être publiable. J'en parle à mon éditrice. Elle est ravie par le projet. Et par chance, elle trouve les textes bons. Et au final, le texte comportera 35 fragments, l'équivalent d'une classe, une ouverture, enfin une introduction, un épilogue, et puis 35 fragments. Il y en a 13 qui ont été écrits par mes élèves et 22 par moi. 13 écrits par mes élèves et réécrits avec leur accord, par moi aussi, c'est tout de même mon texte. Et voilà. Et ensuite, on a entremêlé tout cela. Au départ, par honnêteté, je voulais nommer les textes. Voilà, le premier, c'est Enzo Curcio. Le deuxième, c'est Laure Chauvel. Je connais le texte par cœur. Et je me souviens de leur nom. Et ils n'ont pas voulu, alors pas par pudeur, mais ils ont souhaité que tout soit indistinct. Ils trouvaient ça mieux. Une belle idée.
C'est une idée intéressante, oui. Parce qu'effectivement, on les retrouve tout à la fin, ils sont nommés à la fin.
Oui.
Mais tout au long de cette lecture, on sent que c'est vous aussi.
Oui, c'est moi.
De toute façon,
35,
on sent
moi,
que c'est vous. Parce que ces fragments, parce que cette douceur, parce que beaucoup d'été, beaucoup d'eau, beaucoup de mer, beaucoup de...
Oui.
On retrouve toutes ces...
oui.
Tout ce qui vous,
oui, c'est vrai, ouais.
Tout ce qui
alors,
vous caractérise.
Là, c'était assez émouvant. Il n'y a pas que des textes doux, il y a des textes un peu noirs et violents. Il y a des textes hivernaux, de violence familiale.
Il est temps de faire une seconde pause musicale.
Je vois passer le temps. Regarde mes premiers cheveux blancs. Des rides, des coups et des remords. Étranger dans le décor. Le remous des vagues au loin. Vague à l'âme des comédiens. Un bord de mer. Comme dans les films. Elle et moi, main dans la main. On oubliera tous nos soucis. Revoir le script de nos vies. Le cœur a ses raisons. Partir loin. Contre-champ sur la nature. Un bord de mer. Comme dans les films. Elle et moi, main dans la main. On oubliera tous nos soucis. Revoir le script de nos vies. Je sors de la mer, vêtements mouillés. Au coin du feu, un café et le coucher du soleil. Il y a peu de vent sur l'archipel. J'avoue que j'ai presque froid, car l'air des montagnes glace sur moi. Un bord de mer, comme dans les films. Elle et moi, main dans la main. On oubliera souci, revoir le script de nos vies.
Vous venez d'entendre Nathan Simonin qui a chanté « Comme au cinéma ». Vous écoutez toujours Entre les pages et ce n'est que sur Radio G. Suivez-moi à nouveau jusqu'à la maison Julien Gracq.
On va revenir au cinéma parce que vous avez réalisé, alors depuis 57 minutes, je sais que ce n'est pas le seul film que vous avez réalisé, mais il y a 57 minutes, pour moi, vous n'aviez réalisé qu'un film qui s'appelle Vercors. Qui était un...
Ah oui, je vous ai appris que j'en avais fait un deuxième. Oui.
Oui.
Je pensais que vous étiez en train de dire que mon film faisait 57 minutes.
Non, votre film fait 13 minutes.
Je n'aime que les choses courtes.
Courtes, voilà. Ça on a bien compris.
Les livres courts, les films courts, les disques courts.
Donc, vous avez donc réalisé ce film en Super 8.
Oui.
Il dure 13 minutes. Moi, il m'a fait beaucoup penser au livre « 16 lacs et une seule mer ». Est-ce que je me trompe ?
Alors, le fait que vous trouviez un lien entre le film et les livres, alors 16 lacs et une seule mer, c'est étrange, mais pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien qu'il y ait que vous ayez perçu un lien, parce que j'ai espoir que, voilà, que toutes les formes artistiques que je pratique, enfin, il n'y en a que trois, hein, le cinéma, la photographie et l'écriture, je fais en sorte qu'il y ait une cohérence, quoi. Voilà, mes films ont la douceur de mes livres, hein. Même si Vercors c'est un peu plus sombre. Enfin, je n'ai pas écrit que des textes doux et solaires, hein. Revenir à Palerme est sombre, par exemple. Une dernière fois la nuit l'est également, le premier. En tout cas, il y a un lien entre mes films et mes textes, puisque bien souvent, enfin pas c'est bien souvent, tout le temps, enfin, je n'ai réalisé que deux courts films, mais il y en a d'autres qui sont en cours de montage, et tous poursuivent le travail d'écriture ou annoncent ce qui va suivre en termes d'écriture. Voilà. Je m'explique, vous avez vu uniquement Vercors, il y a un texte qui s'intitule Vercors qui est terminé, et j'ai réalisé le film avant le livre. Voilà. Mmh. Là, le film annonce, le film dure 13 minutes 50, le livre à peine 100 pages, et c'est l'inverse pour le deuxième, qui s'intitule Et la mer est de cendre. C'est l'inverse puisque j'ai écrit Lungomare. Lungomare et le film Et la mer est de cendre se déploient dans les mêmes espaces, donc la côte ligure, mais pas que. J'ai accumulé des mètres de pellicule entre 2022 et 2023, au cours de deux étés, et j'ai réalisé le film en 2024. Il fait 11 minutes 10. Et voilà, le prochain texte qui sortira possiblement dans un an, en janvier 2026, se déplace du côté du nord-est américain, et j'ai également filmé ces espaces-là, et le film, je pense, existera avant le livre. Mmh.
Si je fais la référence entre les deux, entre 16 lacs et Une seule mer et Vercors, c'est que dans Vercors...
Mais oui, je vois pourquoi.
On voit pourquoi. Une femme qui surgit qui deux fois en plan fixe, et elle disparaît.
Oui, c'est juste, oui. Ah, j'avais pas. Merci de faire un rapprochement. C'était pas du tout volontaire. Mm. Mais c'est vrai que. Ah oui, ça raconte la même histoire, hein, l'histoire d'une disparition.
Et dans Vercors, il y a ce flou permanent sur les paysages qui se dissolvent presque. Le même sentiment que j'ai eu dans 16 lacs et une seule mer quand vous décrivez cette femme qui est filmée de dos, qui regarde le lac. Et pour moi, ça pouvait pas être autrement que dans une forme de flou. Dans quelque chose de voilà d'éthéré, de pas réel presque.
Oui, c'est juste. Ah. Oui, oui, bah oui, c'est assez juste. J'aime bien cette idée éthéré. J'aime pas trop.
Je m'en doutais.
Mais par contre, un peu irréel, j'aime bien parce que voilà, mes textes et on l'a souvent noté. J'aime bien cela. Ressemble un peu à des dérives rêveuses où la fiction et le réel s'entremêlent. Éthéré, j'aime pas trop, parce que c'était le cas, en tout cas, s'agissant de personnages féminins, c'était le cas dans mes premiers textes, et je trouvais que c'était une espèce de petite facilité que je n'aime plus. Il y avait tout le temps des personnages féminins, mais qui étaient un peu évanescents, quoi, un peu fantomatiques et disparaissants, et pour le coup éthérés. Et vraiment, depuis trois livres, je sais pas pourquoi, sans doute que toutes les questions... Qui nous agite, et tant mieux que ça nous agite, autour de la représentation des femmes par un regard masculin, voilà, qui est possiblement chosifiant ou objectivant, je pense que ça a infusé en moi, quoi. Et à présent, vraiment, j'espère que mes personnages féminins sont bien plus incarnés et bien moins éthérés qu'avant. Mmh. En tout cas, c'est clairement le cas... dans Lungomare, où le personnage féminin est beaucoup plus incarné que le personnage masculin. C'est elle qui conduit le récit, à tous les sens du terme d'ailleurs. Elle conduit la Fiat, Seicento. Mm. Et le narrateur, pour une fois, ne revisite pas ses propres espaces, mais les espaces de la femme qu'il aime. Voilà, donc c'était la petite parenthèse autour de l'adjectif éthéré que j'aime peu. En revanche, voilà, j'aime le présenter comme une boucle rêveuse. Voilà. Bon.
Avant de vous demander de faire une lecture de Lungo Mare, vous en avez juste parlé un petit peu, mais la formule que moi j'avais écrite, c'est « mais il y a Roland Barthes ». Alors Roland Barthes, il représente quoi pour vous? Parce que moi, je l'ai senti présent, hein, Roland Barthes.
Ah ben bah merci.
Oui.
Souvent, on me demande, justement, les jeunes gens, quoi, enfin, les élèves me demandent s'il y a dans mes livres une trace de philosophie. Alors pas du tout, je leur dis que voilà, mes textes, Dieu merci, ne disent rien. Et ils n'ont rien à dire. Ils n'ont aucune thèse à défendre, aucun message politique à déployer. Parce que voilà, ce n'est pas ce que j'aime faire. Je serais imposteur si je faisais ça. Voilà. Mon engagement, il est ailleurs. Mais il y a un journaliste aux matricules des anges qui me suit. Quand on échange en off, quoi, il me dit ouais, vos textes, ils sont bergsoniens. Bon, c'est vrai que c'est un philosophe qui a beaucoup écrit autour du temps et j'aime bien le lire et j'aime bien l'enseigner. Voilà. Et c'est vrai que. Il a raison, mais après, ce serait malhonnête de dire que Bergson est une des influences majeures de mes textes. Vraiment, tout ça est très très inconscient. Voilà, donc peut-être que mes lectures de Bergson ont inconsciemment influencé ma manière d'écrire. Et c'est vrai que Barthes peut-être plus consciemment. Voilà.
Autour de quel livre?
Ouais, j'aime beaucoup l'Empire des Signes. Enfin, j'aime beaucoup j'aime tous ses textes, quoi. Enfin, La Chambre Claire, je l'ai lu beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a de belles analyses autour du fragment, quoi. Voilà, le fragment est à la fois fermé et ouvert, quoi. C'est-à-dire que chaque fragment est comme autonome et ouvre sur le fragment suivant. Et j'essaie de reproduire cela, enfin, dans ma manière de construire mes fragments. J'aime bien la distinction qu'il fait entre une écriture dure et au couteau. Je sais pas, l'écriture, par exemple, parce que c'est le titre d'un ouvrage d'Annie Ernaux, l'écriture que pratique Annie Ernaux, par exemple, ou Christine Angot. J'aime beaucoup ces deux autrices, mais je suis très très loin de leur prose. Et Barthes préfère l'écriture japonaise au pinceau, quoi. Voilà. Donc une écriture effleurante, où on n'appuie pas. On parlait de la brièveté de mes textes. Voilà, il faut pas s'appesantir, quoi. Mm-hmm. Faut pas appuyer, il faut être délicat. Barthes aussi par rapport à la ponctuation. Enfin, voilà, quand je veux faire un peu le malin, et on me demande. Alors certains, vraiment, j'ai parfois des lecteurs, des lectrices qui sont hyper attentifs et qui me disent, mais elle est bizarre votre ponctuation. Il n'y a jamais de point d'interrogation, par exemple. Et ça, c'est Barthes. Il y a vraiment, je ne sais plus dans quel texte, il explique sur une page et demie pourquoi il ne faut pas ponctuer. Parce que c'est une manière d'être généreux, dit-il, vis-à-vis du lecteur, de la lectrice. Le lecteur n'est pas stupide. Donc quand on pose une question, c'est pas la peine de mettre un point d'interrogation. Le lecteur ou la lectrice comprend qu'il s'agit d'une question, et voilà. Et puis il trouvait que le point d'interrogation était moche. Et il a raison. voilà.
Eh bien, je vous remercie, Sébastien, d'avoir répondu à ces questions. Je vous propose que vous nous fassiez une lecture de votre dernier livre, donc de Lungo Mare.
Depuis presque le début, je zappe les trois premières pages. L'espace central de l'été sera Rocca Bianca, petite station balnéaire à 40 km plus à l'est de San Remo. Après les virages de la corniche, on tombe sur son anse parfaitement circulaire. Le défilé coloré de ses parasols, transats et autres cabines de bain, quelques digues, quelques pontons, le port en arrière-fond, le sable, la mer plate. Rocca Bianca découverte et choisie par hasard, il y a deux saisons, à la fin d'un précédent voyage italien. Comme chaque fois, je ne parvenais pas à laisser l'été, et la grande joie que je découvrais alors dans ces rues contribuait à le relancer dans l'instant. Trois palmiers protègent toujours les balcons de l'hôtel Miramare. Les lettres jaune citron de son nom impriment le blanc des façades, rien de clinquant, mais une désuétude bienvenue. Les bains de l'hôtel en face de celui-ci, il n'y a qu'à traverser le boulevard, poser sa serviette sur les transats de couleur crème, déplier le parasol rouge, regarder le spectacle de la plage, cet art italien de la passeggiata, qui se déploie jusque dans la mer, attendre, enfin, que passe Annabella. Annabella, la fille des derniers soirs des étés précédents, chevelure noire, mèche qui tombe dans les yeux, noirs, grands ouverts comme s'il s'émerveillait en permanence. Cet émerveillement et l'énergie qu'il peut entraîner, c'est cela qui séduit. Annabella, chevelure noire, très courte à présent, un air garçon, malgré les petites robes, les ongles rouges cardinal, c'est elle qui précise. Peau blanche, blancheur de Kabylie, terre d'origine de son père, peau qui renonce à brunir, même au plus fort de l'été, à ma grande joie. Elle arrive de Gênes, l'hôtel Miramare appartient à la famille de sa mère depuis des décennies. Contrairement à moi, qui vis à l'intérieur des terres, Annabella n'a jamais quitté le front de mer.
Merci.
Merci.
Merci et puis ben, bonne fin de soirée. Merci Sébastien pour cette,
merci à vous.
Cette participation.
C'était très agréable, merci.
Au revoir.
Et voilà, le numéro 144 de Entre les pages est terminé. Au cours de cette émission, vous avez entendu Grise Cornac qui a chanté Pluie et Nathan Simonin qui a chanté Comme au cinéma. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 26 février à 17h. J'ai invité Mathilde Bosseau, la très bonne surprise de cette rentrée littéraire du mois de janvier. Elle a écrit un polar rural, bien terreux et bien humide. Les Saules, paru au Seuil dans la collection Cadre Noir. Et je ne vous dis que ça. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
Quitan las máscaras y ahí daro bastante por un trabajo tonto. Solo pensaban en el dinero, solo pensaban en sí mismos. Lo que me gusta es contar, no trabajar para comer. Y ahí daro suficiente tiempo, ahora bailo. No me importa tu dinero, solo quiero sentirme libre. No me importa tu dinero, solo quiero sentirme libre. Smoke venga todo el día, pasar mi tiempo cantando. Smoke venga todo el día, pasar mi tiempo cantando. Una vida, solo tenemos una vida. No voy a desperdiciar la mía. Me siento pumped up en querer tomar una copa. Siento que estas vacaciones me hacen mucho, mucho bien. Tengo ganas de vivir así todo el tiempo, ahora valo. No me importa tu dinero, solo quiero sentirme libre. No me importa tu dinero, solo quiero sentirme libre. Smoke venga todo el día, pasar mi tiempo cantando. Smoke venga todo el día, pasar mi tiempo cantando.
tiempo cantar.